Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Bonjour et bienvenue pour ce 90 minutes un peu spécial, vous l'aurez compris. On continue l'édition spéciale consacrée aux funérailles de la reine, juste après le flash info de Mickaël Dorian. Juste après. Alors, vous le voyez sur cette image, le corbillard de la reine est en train de poursuivre son trajet vers son dernier voyage, sa dernière demeure. Et il faut le dire, nous avons tous rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui, qu'elle soit la nôtre ou pas, d'ailleurs, qu'on soit de ce côté de la Manche. Combien d'entre nous étaient devant leur téléviseur depuis la mi-journée pour assister à ce moment unique, après 10 jours déjà suspendus dans le temps, vous le savez. Donc les funérailles se poursuivent avec la deuxième phase qui va débuter sous peu. Mais maintenant, ce sera Windsor, après le faste et le protocole de Londres et la cérémonie de Westminster. On va bien sûr y revenir. Je vais vous présenter les invités qui vont m'aider à commenter ces images historiques aujourd'hui. Bienvenue à vous, Simon Gilham, vous êtes dirigeant chez Vivendi, vous êtes britannique.
Tout à fait, oui, c'est, bonjour.
Personne n'est parfait aujourd'hui. Non, mais voilà, on vous a invité aussi pour ça, pour votre connaissance et pour avoir votre sentiment aussi de ce que ça représente, de ce que ça revêt comme portée historique, bien sûr, que ces funérailles. À vos côtés, Kevin Guillot. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes aussi le fondateur du site monarchiebritannique.com. Voilà, je vous invite tous à regarder parce que forcément vous y trouverez une mine d'informations en cette journée si particulière. Marc Menant, je vais vous affubler de votre casquette d'historien aujourd'hui, pour une fois, et non
comme
de troublion. Mais voilà, vous allez nous encore une fois nous agrémenter de votre science et de votre connaissance de cette famille assez unique dans le monde. Et à vos côtés, vous allez faire la même chose, Philippe Delorme. Je rappelle que vous êtes également historien. Voilà. Alors, quelle leçon quand même? Quelle leçon d'histoire, d'humilité, d'organisation, de sacre aussi, de sacré, de mystique? Il y avait tout aujourd'hui réuni.
Oui, Marc. Oui, ben, c'est la logique même de la royauté dans son essence. Et ce qui figure sur le passeport de Simon, Dieu est mon droit. Et par conséquent, lorsque l'on est investi dès sa naissance de la potentialité de représenter Dieu sur terre, il est évident qu'on devient un guide pour son peuple. Et ce qui est formidable, c'est que la reine Elisabeth II a parfaitement joué ce rôle de transcendance. C'est-à-dire que non seulement elle était un symbole, mais l'histoire l'a convoquée. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Elle a eu un destin. C'est-à-dire que nous avons une vie, on va, on vient. Elle, non. À un moment donné, quand elle est apparue, le monde commençait à connaître les frissons du malheur. On est en 1926, il y aura 1930, et puis après, le désastre de 1940. Elle n'a que 13 ans, et tout de suite, eh bien, sa personnalité rayonne. Elle devient la potentialité de croire en l'avenir. Déjà, avec un premier discours, et puis par les attitudes qui seront les siennes, et durant tout le conflit, jamais elle ne baissera la tête. Et donc le peuple britannique peut se tourner vers elle. Et ensuite, eh bien, on l'a vu tout au long de son règne, à des moments cruciaux, apparaître comme une émergence, comme étant celle, l'étincelle du possible dans l'unification des hommes. Elle était la paix de l'âme, la paix des cœurs.
Simon Gilham, elle a traversé beaucoup de tempêtes, beaucoup d'épreuves. Ses enfants ne lui ont pas toujours rendu la partie facile aussi. Ils n'ont pas toujours bien contribué à l'image et au rayonnement de la couronne, peut-être comme ils auraient dû à certains moments de leur vie. Mais elle est restée droite. Elle s'en est toujours remise, même quand elle était à des... qu'elle avait vraiment perdu en popularité. C'est en cela aussi que c'est une femme exceptionnelle, une femme de son temps qui a su aussi jauger les problèmes avec l'opinion publique et se redresser quand il le fallait, redresser le cap.
Oui, tout à fait. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Okay. Vraiment, je pense que c'est ça, c'est cette espèce de constance dans tous les moments difficiles et le sens du devoir en permanence. moi j'ai 66 ans, elle a toujours été ma reine, donc ça me fait très bizarre aujourd'hui, je me sens un peu orphelin, comme des millions de Britanniques, et c'est un sentiment extrêmement bizarre aujourd'hui.
Oui, vous êtes ému donc depuis ces 10 jours, là, vous les vivez un petit peu comme un moment suspendu dans votre vie, comment vous le ressentez?
Je pense que c'est, oui, c'est un moment un peu inattendu, parce qu'on n'a jamais... C'est comme une grand-mère, hein, on l'a toujours eue avec nous, et puis tout d'un coup, elle n'est plus là. Et même si elle avait 96 ans, et donc on s'attend à ce qu'elle décède plutôt que plus tard.
Mais là, vous avez encore du mal à le réaliser, finalement, d'une certaine
manière. C'est réalisé maintenant. Je pense que le moment extraordinaire, c'était aujourd'hui, lors des obsèques, quand tout le monde a chanté « God Save the King ». Et que Charles, il ne chantait pas pour la première fois de sa vie. Là, on a vraiment senti
que
c'était changé. Et puis on l'a senti extrêmement ému à ce moment.
C'est vrai, il avait les yeux embués de larmes, alors que c'est un petit peu anti-protocole en ce qui concerne sa famille. Je vous propose de revenir vers vous deux, bien sûr, Kevin Guillot et Philippe Delorme. Mais on va aussi rejoindre l'une de nos équipes qui est sur le terrain, en l'occurrence Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes, vous, le long de ce qu'on appelle « the long walk », c'est-à-dire cette allée de plusieurs kilomètres, 4 ou 5 je crois, qui mène directement au château de Windsor. Pas un mètre carré de trottoir. On le voit d'ailleurs sur ces images, on n'est pas encore à The Long Walk, qui ne soit déjà rempli de monde sur ce parcours, Régine.
Oui, Nelly, alors le convoi funéraire devrait arriver vers les 16 heures, d'ici quelques minutes. Ensuite, il y aura cette longue procession sur cette route qui fait 5 km qu'on appelle la Long Walk. Il y a énormément de monde ici, Nelly. Les gens sont venus depuis hier et ils arrivent en masse. On a dû d'ailleurs se reculer puisqu'il y a des problèmes de réseau. Il y avait tout à l'heure les répétitions et donc pendant cette procession qui va durer jusqu'à à peu près une quarantaine de minutes puisque c'est au niveau du château que le roi Charles III et quelques membres de la famille vont rejoindre la procession pour accompagner le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-Georges, là où il y aurait un service funéraire en mémoire de la reine Elisabeth II. 800 personnes sont invitées, surtout des membres du personnel de la reine. Et ce service, donc, je vous le disais, durera 45 minutes. Ensuite, la reine Elisabeth II sera inhumée dans l'annexe de la chapelle Georges, aux côtés donc, de son père, le roi George VI, sa mère, la queen même, et puis sa sœur, la princesse Margaret, et puis son mari, le cercueil de son époux Philippe, le prince Philippe, qui repose dans le caveau royal, sera transféré pour être à ses côtés.
Merci beaucoup Régine, on vous retrouvera d'ailleurs, juste avant l'arrivée imminente du corbillard. Cette image est toujours impressionnante, ces fleurs, ces roses qui sont jetées sur le passage du corbillard, et ça dure depuis ce matin. Et pensez, ce trajet qui relie Londres vers l'ouest, donc c'est-à-dire vers le château de Windsor, c'est quand même 37 km, c'est-à-dire 37 km qu'il a fallu sécuriser, baliser. Ça force le respect. Kevin Guillot, votre regard sur cette cérémonie de ce matin, parce que c'était quand même un peu le point d'orgue de cette journée, on va pas se le cacher. Tout était réglé au cordeau, ça a démarré à l'heure, ça s'est passé sans anicroche. Honnêtement, quelle leçon pour nous tous, en tant que pays, en tant que nation autre.
C'était extrêmement émouvant parce que c'est toutes les traditions britanniques que l'on voit, que l'on voit vraiment prendre vie sous nos yeux en fait pendant toute cette journée qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc on voit en fait que les Britanniques sont extrêmement touchés. On voit toutes ces fleurs qui sont jetées. C'est vraiment extrêmement émouvant pour moi parce que voilà, on a vraiment. Je suis un grand admiratif de la reine depuis toutes ces années et ça fait 70 ans qu'elle était sur le trône, donc imaginez, on n'avait jamais connu personne d'autre depuis elle. Donc en fait, elle était un symbole de stabilité, un symbole de notre passé, pas forcément que pour les Britanniques, mais aussi pour nous, là, en tant que Français, enfin pour le monde entier, c'est un symbole de notre histoire, mais aussi un symbole de notre présent, parce qu'elle représentait aussi notre présent avec les différentes guerres qu'on a encore aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, tout ça, elle représentait tout ça. Et je trouve que c'est ce symbole qui disparaît et qui nous poigne au cœur, en fait, aujourd'hui.
Et puis elle était un trait d'union entre plusieurs siècles, parce qu'elle a quand même été la contemporaine d'un certain Sir Winston Churchill, qui était quand même né au au 19e, voilà. Et voilà, elle est arrivée.
Elle est la représentante du
2022.
En fait, son premier ministre, donc Churchill, était né, je crois, en 1875.
Absolument, 1874, je crois.
Et sa dernière première ministre, là, Liz Truss, était née en 1975, donc ça fait un peu plus d'un siècle. Mais ce qui la différencie de, je dirais, du commun des dirigeants politiques, c'est que justement, elle n'a jamais choisi, elle n'a jamais lutter pour avoir le pouvoir. Au contraire, lorsqu'elle était enfant, l'abdication de son oncle a propulsé son père sur le trône, donc elle s'est retrouvée princesse héritière et elle avait confié qu'elle priait à ce moment-là pour avoir un petit frère, pour qu'elle puisse ne pas... Vous voyez, c'est comme dans l'Évangile, que cette coupe s'éloigne de moi. Hein, voilà, elle recherchait pas du tout le pouvoir suprême ou l'autorité ou la couronne. Et malgré tout, elle l'a... Elle a assumé ce devoir avec constance pendant toutes ces années, et c'est ça qui est assez admirable.
Marc, on va se projeter sur la suite. Là maintenant, c'est un peu le dernier voyage, le tout dernier voyage d'Elisabeth II qui démarre. Retour à ce château de Windsor qu'elle affectionnait particulièrement. Il faut le dire que c'était la résidence d'État qu'elle préférait. Bon, elle avait un attachement quasiment charnel à Balmoral, on l'a beaucoup dit, hein, en Écosse. Mais quand même, Windsor, c'était quelque chose de particulier. On reviendra aussi aux vicissitudes qu'a connu ce château au fil des, voilà, au fil des 1904, siècles.
En plus, 1992, c'est le drame absolument, absolu
pour
elle. Absolument, la nuit
sur l'église. Mais là, elle retrouve son cher époux et ses parents.
Alors c'est ça qui est formidable, parce qu'elle a rendez-vous avec l'amour. C'est-à-dire que parfois, dans les familles royales, on est dans une sorte de distanciation de l'enfant par rapport à ses parents. Or, elle, très tôt, c'est l'amour qui lui a été accordé, déjà par son grand-père, George V. Il était fasciné. Il demandait à pouvoir lui rendre visite plusieurs fois. Il veillait aux heures de biberon. Et le roi George VI était totalement entiché de ses deux filles et de son Élisabeth en particulier, la reine aussi. Et cet enfant, ainsi que sa sœur, ne dispose d'aucun contact, je dirais, avec les autres enfants de leur âge. C'est-à-dire qu'elles sont dans un cocon. Cocon qui pourrait être étouffant, car ce sont les gouvernantes. Et heureusement, il y a cet aiguillon de l'amour qui leur est proposé au quotidien. Et à 13 ans, il faut sauter les étapes, on n'a pas le temps de tout reprendre. C'est la révélation de l'amour absolu avec le prince charmant qu'elle élit.
Elle n'a été de bonne fée au-dessus de son berceau, quoi, d'une certaine manière.
Alors, à la fois bonne fée...
Non, mais dans le point de vue de la destinée aussi.
Au point de vue de la destinée, c'est un destin. C'est plus une destinée, c'est un destin. Il y a quelque chose qui vient, qui l'accueille et qui la confronte à chaque fois, non pas à son histoire personnelle, mais à l'histoire avec un grand H, une histoire planétaire. C'est même pas l'histoire d'un royaume, la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas n'importe quoi. Et puis après, il y a l'effritement de ce qui était le grand empire. Et ça se rapetit, c'est grâce à sa présence, néanmoins, elle retisse le Commonwealth.
Oui, elle arrive maintenant.
C'est-à-dire qu'elle maintient néanmoins une sorte de puissance spirituelle qui galvanise les peuples et qui la maintient dans une fonction, non pas de représentation, mais dans une fonction d'instiller l'espoir aux gens.
C'est vrai qu'on a très peu parlé ces derniers jours finalement du Commonwealth. C'est un peu passé au second plan. On s'est vraiment concentré sur l'aspect britannico-britannique de par la visite de Charles III effectivement en Écosse et puis en Irlande du Nord, puis Pays de Galles. Enfin, deux de ces régions étant un peu troublées, ayant des velléités séparatistes, on le sait. Mais elle était l'unificateur de cet empire révolu.
Oui, non, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand elle est arrivée comme reine, il y avait 6 pays dans le Commonwealth, là, ou 8. Là, il y en a 56.
Incroyable.
Et donc, c'est quand on parle d'inclusion et de diversité, elle en est l'exemple. Alors qu'on pense toujours à l'élite, etc. Mais elle était vraiment, vraiment portée par le Commonwealth. Et il faut pas l'oublier. Ce matin, à la BBC, il y avait un journaliste pakistanais qui parlait, et qui pense au Pakistan en ce moment, qui parlait de combien les Pakistanais étaient touchés par le décès de la reine et combien elle avait fait deux visites officielles au Pakistan, oui, par exemple, dans sa vie. Belize, elle avait fait deux visites. Elle avait fait plus de, je pense, c'est 150 pays qu'elle a visités pendant qu'elle était reine. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment important, ça. Très important. Et que les velléités d'indépendance, on le voit par exemple avec Nicola Sturgeon en Écosse, elle ne dit pas qu'elle ne veut plus la reine. Elle ne veut plus de dépendre de Westminster. Mais elle est d'accord pour toujours avoir la monarchie.
Est-ce que cette tradition du Commonwealth peut perdurer longtemps sous la houlette de Charles III? Est-ce qu'il reprendra le flambeau? On sait qu'il assure un certain nombre de déplacements.
Il est considéré comme chef du Commonwealth aujourd'hui, en même temps qu'il est...
Non, mais est-ce qu'il peut maintenir aussi longtemps que ça l'Union sacrée, alors qu'il y a certains pays, on parle aussi de la Nouvelle-Zélande...
Ça va être son grand défi. Très tôt...
Alors chacun son tour.
Oui, c'est juste un mot. Non, je vous laisse, Kevin. Il est l'homme qui a pensé l'écologie 35 ans avant tout le monde. Et je crois que cet emblème-là peut le servir.
Mais pour le Commonwealth, simplement...
Alors, on va lui laisser s'exprimer.
Non, simplement, je voulais dire que par rapport au Commonwealth, oui, normalement, on va dire que ça va être le grand défi de Charles. Ça va être il va devoir, en fait, rassembler tout ce monde autour de lui, malgré cette impopularité qu'on lui inflige, alors qu'il n'est pas, en fait, si impopulaire qu'on dit par rapport à ce qui est vécu en France, parce que les Britanniques ont compris qui il était, cet homme. Un homme qui est engagé écologiquement, vous l'avez rappelé, un homme qui est engagé socialement aussi. Il a créé la Queen's Trust, donc cette organisation qui aide la jeunesse britannique dans le besoin. C'est vraiment un homme engagé et je pense que c'est cette symbolique-là, donc de cette personnalité-là, pardon, qui va faire que les gens vont se
fédérer autour de lui,
Charles, pour faire perdurer la Commonwealth.
Mais peut-être pour être plus clair sur le Commonwealth, dans le Commonwealth, il y a 15 royaumes, je crois, hein, dans lesquels, en particulier, il y a le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ouais. Si l'Australie devenait une république, elle ne sortirait pas du Commonwealth. La Barbade, je crois, est devenue une république l'année dernière. Elle n'est pas sortie du Commonwealth. Donc, vous voyez, il y a différentes étapes. C'est-à-dire que, même comme on disait, voilà, l'Écosse deviendrait indépendante, elle ne sortirait pas du Commonwealth. Elle garderait peut-être même les Windsor comme souverain. Oui. Donc, le Commonwealth,
Il y a quelque chose qui transcende.
Voilà, c'est une espèce de confédération assez large qui pourrait.
Économique surtout, un atout économique.
Bien sûr, c'est des partenariats privilégiés.
Il y a d'autres choses qui pourraient faire que le Commonwealth pourrait vraiment être compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de pays, par exemple, où l'homosexualité est illégale, où il y a des choses, des lois qui vont totalement à l'encontre de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et ça, ce serait plutôt ça, les raisons. Parce que ce serait politiquement incorrect, et ce ne serait pas possible politiquement d'être allié avec des pays qui ont des gouvernements...
Comme l'Afrique du Sud dans les années 70 avec l'apartheid, en fait.
Voilà, c'est ça.
L'Afrique du Sud, c'est intéressant parce que là aussi, ça montre l'humanisme incarné par la reine Elisabeth. Quand elle se présente en Afrique du Sud, qu'elle était celle qui luttait contre l'apartheid, elle s'était fâchée à moitié avec Margaret Thatcher, qu'elle trouvait beaucoup trop tranchante en la matière. Mais c'est surtout...
Avec Nelson Mandela.
Mais c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand... Mandela, elle se présente sur place, il n'a aucun rôle officiel, il ne peut pas assister à la réception qui est organisée par elle et pour montrer sa fraternité avec...
Au fond, sa grande force, c'est qu'elle a toujours compris le sens de l'histoire, dans quel sens l'histoire allait. Elle ne s'est pas trompée, en fait. Idem, Deuxième Guerre mondiale, elle s'est engagée, alors que, on sait, certains membres de la famille royale, de la noblesse britannique, avaient des relations, y compris
son
beau-frère, son oncle avait des relations très particulières et troubles avec le régime nazi. Elle a pris tout de suite fait et cause pour...
En l'occurrence, elle a suivi son père, George VI. Voilà.
Non, mais ensuite, elle s'est engagée pendant la Deuxième Guerre.
Qui avait soutenu Churchill aussi.
Absolument. Voilà.
Et puis, la famille n'a pas déménagé. La famille est restée dans la région londonienne, qui était vraiment un symbole extrêmement fort. Parce que toutes les autres familles londoniennes sont
Justement, ce château de Windsor, dont on disait qu'il avait survécu au temps, Il a été le refuge de la famille à
enfin,
un moment.
Enfin, pas de la famille, des filles seulement.
Des filles, pour... bah oui, mais enfin, bon, quand même.
Le roi et la reine restent à Buckingham avec des volets, des vitres remplacées par des plaques de bois parce que, enfin, c'était...
On craignait les bombardements.
Oui, enfin, peu de chauffage, pratiquement. Ils passaient la journée à Buckingham et ils rentraient le soir retrouver leur fille à Windsor.
Oui, oui. Mais Eleanor Roosevelt, qui était venue pendant la guerre, la femme du président américain, était effarée par les restrictions auxquelles la famille royale était... Enfin, elle mangeait des rations de combat. Elle s'éclairait avec une petite bougie, une petite lanterne. Enfin voilà, tout ça était... ils étaient vraiment au niveau du peuple.
Et puis là. Windsor, c'est aussi, puisqu'on parlait de guerre, une affaire de patronyme aussi. Hein, parce qu'avant, pendant la Première Guerre mondiale, avant cela, ils s'appelaient les Saxe-Cobourg-Gotha. Et il y a eu cette décision, le nom faisait trop germanique, de le transformer et de lui donner 1917, le nom de ce château.
Voilà, c'est Georges V qui a décidé ça pour pouvoir faire disparaître en fait leur consonance trop allemande dans ce monde en guerre contre les Allemands. Et donc en 1917, il a décidé d'enlever tous leurs titres allemands et de changer leur nom en Windsor en reprenant le nom de ce château qui est le berceau millénaire de la monarchie britannique finalement. La tour ronde du château de Windsor, la partie la plus ancienne, date de Guillaume le Conquérant, le premier monarque vraiment anglais, si vous voulez. Ils descendent tous de Guillaume le Conquérant.
Voilà. D'ailleurs, il faut bien souligner que les Saxe-Cobourg-Gotha viennent de s'éteindre, enfin en tout cas en Angleterre, avec Elisabeth. C'est-à-dire maintenant, la nouvelle dynastie, elle s'appellera toujours Windsor, mais en fait, ce sont des Oldenburg, c'est-à-dire la famille du prince Philippe, et donc la même famille qu'au Danemark et qu'autrefois en Grèce.
Et lui aussi.
Voilà. C'était aussi une famille allemande, donc voilà, enfin danoise allemande. Donc,
mais il y a beaucoup de noms qui ont été changés. Le nom de Marlbatten, c'était pas ça à l'origine.
Voilà, Oldenburg, d'ailleurs, on voulait l'appeler, on lui avait proposé de s'appeler Oldcastle, qui est la traduction en anglais de Oldenburg. Et puis finalement, il a préféré prendre le nom de sa mère, qui était Mountbatten, qui était déjà un nom anglicisé, puisque c'était Battenberg.
Enfin. Alors, si vous avez tout raté de la cérémonie de ce matin, et alors que vous le voyez en double fenêtre maintenant, alors là, on avait juste avant les préparatifs, maintenant c'est l'écran plein pot, mais voilà, le cortège qui s'approche avec toujours cette foule assez dense qui se met soit sur les trottoirs, lorsqu'il y en a, là c'est pas le cas, hein, qui se masse le long du parcours, ça ne s'est jamais interrompu, et là on doit être à peu près à la louche au 33-34e kilomètre. On suit ça un peu comme un marathon, c'est assez incroyable ces images.
La gondole royale, là, qu'on avait vu voir au moment du jubilé, non?
Le jubilé du diamant en 2012, c'est ce que j'allais souligner aussi, et elle avait été créée spécialement pour marquer le jubilé de diamants, et on voit qu'avec les rames levées pour rendre hommage à la reine.
Et alors si on s'attache aux détails, bon, j'ai lu ce matin que cette fameuse couronne, gerbe de fleurs qui orne le cercueil, il y avait des plantes qui avaient été savamment, handpicked par ses soins, bien sûr, mais que des directives avaient été données par Charles, dont on connaît la passion pour la botanique, afin qu'il y ait certaines plantes très symboliques qui figurent dans cette couronne. Je crois qu'il y a du chêne anglais, il y a aussi
un poireau gallois peut-être.
Il y a de la sauge voilà.
En tout cas, c'est incroyable. La couleur, moi, qui me marque particulièrement, parce que ce rose violet est vraiment le violet de la monarchie britannique. Le coussin sur lequel repose la couronne est violet. Le manteau que Elisabeth II arborait quand elle avait été couronnée était violet. La couleur officielle de son jubilé de platine était le violet. C'est vraiment rattaché personnellement à Elisabeth II par rapport à son jubilé, mais aussi par rapport à son titre de monarque.
Mais je pense que c'est le cours. En fait,
excusez-moi, je vous interromps.
Tous les tracteurs.
Oui, c'est toujours.
Mais oui.
On avait vu en Écosse également. C'est extraordinaire.
Et c'est vrai, Samuel Guillaume, vous le disiez tout à l'heure, quand vous parliez de ce Commonwealth qui lui rendait aussi hommage. On a vu l'autre jour, lorsque Charles est allé de manière un peu impromptue saluer la foule qui s'était recueillie pour la reine, il a salué un certain nombre de personnes qui visiblement venaient du sous-continent indien.
Et il y avait énormément de Africains aussi. Je pense que ce sont des Britanniques.
Je veux dire, de leur origine.
D'origine, je veux dire, comme moi, ma mère était irlandaise, mais je me considère anglais. Je veux dire, c'est la même chose. Ce sont Non, mais j'aimerais bien insister là-dessus, parce qu'on a très souvent, excusez-moi, en France, tendance à dire, bah oui, ce sont des Indiens ou des Africains. Ce sont des Britanniques qui sont nés en Grande-Bretagne et qui se sentent aussi britanniques que moi.
Oui, ce qui est de la différence.
Mais peut-être aussi qu'il y avait des représentants du Commonwealth. Ça, on ne le sait pas. On leur a pas posé la question.
Je pense souvent, on dit souvent à quelqu'un, tu es originaire d'où? Ah ben, je suis né à Windsor. Ah, ok, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que Je pense qu'il faut y aller pour le savoir. La multiculturalité en Grande-Bretagne et notamment à Londres
est très ancrée depuis longtemps.
C'est pas un sujet. C'est, je dis ce que je disais tout à l'heure. Il y a les quatre ministres des ministères, les principaux ministres de nouveau gouvernement. Il y en a aucun qui est blanc.
Mais ça aussi, c'est une leçon pour nous.
On revient à ce
c'est une leçon pour nous, Français.
Oui, mais c'est parce que... je ne dis pas que c'est une leçon, je dis que c'est comme ça.
Mais c'était comme ça sous l'Ancien Régime en France.
Je pense qu'il faut insister là-dessus.
Mais c'est un peu, si on revient sous l'Ancien Régime, l'idée c'était on était le sujet du roi, quelle que soit son origine, on portait allégeance. Donc il suffit de faire allégeance au roi pour, ou à la reine pour...
Alors on va s'interrompre quelques secondes parce qu'on a une petite pause à marquer et puis on revient à 16h, on retrouvera Régine Delfour juste avant la dernière phase de ses funérailles. Spécial. Cette édition spéciale se poursuit sur l'antenne de CNews cet après-midi avec cette image toujours que nous vous montrons de la procession qui est maintenant en train de s'approcher lentement mais sûrement néanmoins de Windsor. Ce sera la dernière demeure, le dernier passage sur cette route pour le cercueil d'Elisabeth, tandis que vous voyez cette image double, à la fois de la sécurité, de la route, qui s'est un petit peu clairsemée quand même. Il y a un petit peu moins de monde, peut-être parce qu'on approche d'un lieu un peu plus sécurisé ou résidentiel. Mais on retrouvera bien sûr sur le parcours de notre équipe, à commencer par Régine Delfour, qui elle est sur, dans le périmètre du château de Windsor, à quelques kilomètres sur cette fameuse Long Walk, où là, pour le coup, il y a une foule très dense pour apercevoir le cercueil une toute dernière fois.
Oui, je ne sais pas si vous entendez Nelly, mais il y a des applaudissements puisque en fait le cercueil ne devrait pas tarder à arriver devant les grilles du domaine. Hein. C'est une question de minutes. Ils sont là depuis plusieurs heures. Certains ont même passé la nuit et ils attendent. Il y a eu des applaudissements, mais tout à l'heure c'était assez étrange parce que c'était extrêmement silencieux. Ils attendent ce moment, ce moment pour rendre hommage à la reine, pour voir le cercueil de la reine une dernière fois et puis pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, Nelly.
D'accord. Est-ce que vous avez pu parler avec certaines des personnes qui sont autour de vous ? Que vous disent-elles ? Vous nous racontiez un petit peu plus tôt dans l'émission que des Londoniens avaient préféré se rendre à Windsor pour privilégier peut-être un accès plus facile à ce fameux cortège, pour espérer le voir. Donc ils ont fait quand même un certain nombre de kilomètres, ils ont anticipé la chose.
Oui, en fait, il y a des Londoniens, il y a des Britanniques venus des quatre coins du royaume, des gens aussi à l'étranger qui sont venus ici, qui ont préféré venir ici à Windsor. Alors, parce que c'est plus personnel, plus intimiste, puisque la reine avait une relation particulière avec ce château qu'elle affectionnait énormément. Et puis surtout parce qu'en fait, ils avaient cette chance de pouvoir voir le cercueil, chose qu'ils ne pourraient pas avoir sûrement eu l'occasion de voir à Londres, vu le nombre qu'il y avait dans les rues de Londres. Le nombre de personnes qu'il y avait dans les rues de Londres. Et ici, en fait, ils veulent ce côté un peu intimiste, personnel, comme ce côté existait à Balmoral en Écosse, où il y avait quelque chose de beaucoup plus personnel que cette foule immense. Ils m'ont confié qu'en fait, c'était pour des raisons... beaucoup, même ici, qui habitent ici, m'ont dit qu'ils préféraient... ils avaient peur aussi du monde de regarder aussi... ils préféraient regarder toutes les funérailles à la télévision. Ici, ceux qui sont là veulent vraiment l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et il voulait surtout pouvoir apercevoir le cercueil et lui rendre hommage parce que beaucoup n'ont pas pu aller ni à Édimbourg dans la cathédrale, ni au Westminster Hall pour pouvoir se recueillir devant le cercueil, Nelly.
Oui, on imagine, avec 14 heures d'attente, au summum de l'attente, on imagine que ce n'était pas chose aisée. Merci beaucoup, on vous retrouvera bien évidemment tout au long de l'après-midi. Regardez cette image, ça se passe presque de commentaires. Voilà, cette voiture qui est jonchée maintenant, parsemée de fleurs, de roses pour la plupart, de quelques œillets aussi. C'est quand même assez impressionnant. Ça force le respect de voir à quel point, je sais qu'on a de cesse de le répéter, mais quand même, cette femme faisait l'unanimité. On ose même l'appeler femme, tellement elle était supra tout, Philippe Delorme.
Mais le seul qui la considérait comme une femme ordinaire, c'était Philippe. Et qui se permettait effectivement de l'appeler saucisse, mon chou, etc.
et
c'était, à mon avis, c'était nécessaire pour elle parce que sinon on devient fou quand on est entouré d'une telle d'un tel amour, je dirais, ou d'une telle révérence. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un comme pour les empereurs romains, il y avait toujours un esclave qui leur disait derrière, souviens-toi que tu es mortel, que tu es un homme. Et là, il y avait Philippe qui lui rappelait qu'elle était une femme aussi, et qu'il l'engueulait de temps en temps, éventuellement.
Voilà, ce protocole qui se met en place. Peut-être qu'on a tout quelques indications sur les corps d'armée qui sont représentés là.
Mais il faut bien souligner que le convoi est quand même une exception historique pour l'histoire britannique, parce que c'est la première fois que l'on voit un parcours funéraire d'une telle longueur entre Buckingham et Windsor. Ça, c'est jamais vu. Là, on voit vraiment qu'Elisabeth II voulait montrer que son rôle public, finalement, avant tout, il fallait qu'elle soit vue pour être crue. Elle n'arrêtait pas de le dire pendant son règne. Eh bien là, on la voit encore. Là, on voit encore son corbillard tout vitré qui permet de voir encore une dernière fois son cercueil pour lui rendre un dernier hommage. Donc c'est une exception et je trouve ça vraiment très touchant. Et là encore, l'armée est là pour lui rendre un dernier hommage parce qu'elle était le chef de l'armée, il ne faut pas l'oublier. C'était elle qui dirigeait officiellement l'armée. Ouais. Et c'est toute cette pompe qui nous rend admiratifs de la monarchie britannique.
Et son père, effectivement, et aux générations précédentes, on arrivait en train. Alors oui. Peut-être parce que les routes étaient moins carrossables ou carrossées qu'aujourd'hui.
Depuis la reine Victoria, il faisait le chemin en train. Alors que pour la première fois de l'histoire
de Houston,
on l'a fait en corbillard pour permettre aux Britanniques de rendre un dernier hommage à leur reine. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant, en fait.
Simon Guillaume, de toute votre vie, quand vous étiez petit, à chaque fois qu'il y a eu des cérémonies très officielles ou des funérailles, parce que bon, vous n'étiez pas né, mais vous avez quand même entendu parler de celle de George VI, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de majeur, jamais vous n'aviez vu ça. J'imagine que même vous êtes un peu bluffé par ce qui s'est mis en place.
Oui, je suis bluffé, et puis ça me rappelle mon enfance, parce que un de mes premiers souvenirs, c'était les obsèques de Sir Winston Churchill en 1965. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer devant la télévision. Et ça me rappelle ces moments-là. Et je pense que dans le vécu, j'ai beaucoup de frères et sœurs. On a un groupe WhatsApp. Et on partage tous nos souvenirs de ces moments forts avec la reine. Donc c'est effectivement toute notre vie. Et elle a ponctué toutes les phases de notre vie. Son jubilé en 77, 25 ans, où on se souvient tous d'où on était. Et c'est des moments de communion entre nous toutes et tous. Et c'est surtout ça, parce que, évidemment, c'est comme le Tour de France. Ils vont voir la reine pendant quelques secondes, pendant qu'elle passe. Mais c'est toute la fête autour.
Que même quand elle a connu des moments durs, vous vous disiez, j'ai quand même de la compassion pour cette femme, sachant tout ce qu'elle avait vécu avant aussi.
Je pense qu'il y a eu un moment extrêmement difficile au moment du décès de Diana, où ils ont mal calculé l'opinion publique à ce moment-là, et où il y a eu une rupture, mais elle a fait des erreurs à ce moment-là, où ils ont été mal conseillés. Et elle est revenue de ça, plus humaine, plus proche du peuple, et je trouve que ce qu'elle a fait dans les dernières années de sa vie, c'est qu'elle a trouvé un affectif avec le public qu'elle n'avait pas auparavant. Et par sa longévité, parce que souvent, quand les gens sont plus jeunes, on leur pardonne pas les choses. Plus on vieillit, plus on ira.
Mais pour Diana, je suis pas sûr que ce soit tellement une erreur, parce que finalement, il y avait une espèce. L'Angleterre est devenue hystérique, il y a une espèce d'hystérie collective autour de cette mort.
Peut-être.
Et elle a résisté à ça, elle a raison gardée, en quelque sorte.
Je ne sais pas les raisons, mais je vivais à Londres à l'époque, et on était tous extrêmement choqués.
Oui, parce que les gens étaient dans une espèce d'émotion. Extrême, enfin.
En tout cas, ils étaient dans l'émotion. Et vu les malheurs qu'elle avait eus, effectivement.
Oui.
Et je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, c'est ce qu'elle a su faire, c'est se moquer d'elle-même. Je pense que ce qu'elle a fait en 2012 avec James Bond, c'était juste
incroyable.
Extraordinaire.
Un sens de l'humour.
Et ça, c'est l'humour britannique, en même temps que Mr. Bean qui jouait du piano, etc.
Et après, avec l'ours Paddington.
Et puis, Paddington qui est de Studio Canal, c'est Studio Canal qui a tourné le film de Paddington avec la reine.
Un autre monument de la culture britannique, à lui-même.
Mais le choix de Paddington était fabuleux, parce que c'était... Paddington, c'est un Péruvien qui devient britannique. Il n'est pas clivant, Paddington. Il est tout sauf clivant. Il est gentil. Et d'abord, il est tout gentil. Et puis, il a un regard qui est méchant quand il est fâché, un peu comme la reine. Et donc, il est extraordinaire. Et ce film, qui était tourné par nos équipes, elle l'a vraiment voulu. Elle...
Mais comment on prend contact, pardon, je vous coupe Simon, mais comment on prend contact avec la reine pour lui dire, écoutez, on a une petite fantaisie à vous suggérer, votre majesté.
Et c'est elle qui l'a demandé.
Ah, c'est elle qui a pris... Alors, racontez-nous.
Buckingham Palace qui dit, en préparant le jubilé, qui contacte Richard Curtis, qui est celui qui a fait trois mariages, Love Actually, tout ça, c'est Richard Curtis. Et lui, il a eu l'idée de Paddington. Donc, c'est à lui, il a dit, Paddington, il incarne la gentillesse. Hein. Ils ont contacté Studio Canal avec un script qui était fait. Et Studio Canal a évidemment a sauté sur l'occasion de le faire. Donc on peut dire que c'est un film français.
Donc vous êtes en train de nous raconter quand même un truc assez historique, à savoir que Buckingham est tellement au fait de ce qui se fait en termes de production cinématographique et notre réputation de Studio Canal a tellement traversé le monde.
D'accord, on va dire ça comme ça. On est ici dans l'hexagone. Mais si vous voulez, c'est Richard Curtis qui a eu l'idée. Mais ce qui est génial, c'est que Paddington, les deux films qui sont des films Studio Canal, ils ont choisi Paddington et ils nous ont contactés. On a dit oui. Mais on ne savait pas si elle allait pouvoir faire le tournage. Et ce qui est fabuleux, c'est que les équipes de Studio Canal, d'ailleurs, il faudrait en inviter un ici pour qu'il vous la raconte, il était au tournage, ils ont été bluffés par le professionnalisme et la gentillesse de la reine. C'était au mois d'avril cette année qu'ils ont tourné ça, fin avril. Et puis... Elle était fatiguée, donc elle devait prendre des moments de repos. Ils ont tourné sur une journée.
Un petit indiscret, combien de prises pour parvenir au résultat final ?
Alors, très peu.
C'est vrai ?
Très, très peu, parce qu'elle fait des prises très rapidement. Et elle connaissait ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait personne en face d'elle. Hein. Paddington n'était pas là. Et Paddington est arrivé après. Mais elle était formidable. Et le moment quand elle dit « Oh !» I do too. I keep mine in here.
Et elle sort son sandwich. Avec petit sourire entendu. Et avec son petit sourire.
C'est ça. Là où ils ont eu des problèmes, c'est le moment où il fallait taper « We will rock you ». Elle devait taper sur ça avec la cuillère. Elle avait un peu de mal avec le rythme. Et donc, ils ont
un peu compressé cette partie-là.
Est-ce que son accent avait évolué? Parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises.
Beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Oui. Au début, elle a un accent. Par exemple, moi, je dis « have » pour « avoir ». Elle dit « have ». Have. Very nice. Mais ils l'ont aidé à... Je ne dis pas popularisé, mais elle était tellement de la grande aristocratie avec son accent au début. Mais quand on écoute les discours des débuts des années 50...
Avoir un accent plus accessible, peut-être. Oui.
Tout à fait. Oui. Mais si vous regardez The Crown, d'ailleurs, je suis désolé parce que vous écoutez la première reine, elle a l'accent comme c'était avant, et avec Olivia Colman, ça évolue. Je pense que ça va encore évoluer, là.
Est-ce que cet esprit de dérision... Elle l'a affiné, je dirais. Bon, déjà, il y a Philippe qui avait cet humour d'officier de marine, imprégné donc de Rabelais. Mais il semblerait que Harry, par exemple, lui ait suggéré... Elle avait beaucoup d'affection pour Harry.
Oui, Harry a suggéré, avec le truc de James Bond, ils avaient demandé... ils voulaient doubler la reine. Et Harry a dit non, c'est ma grand-mère qui doit jouer dans son propre rôle. Et donc ça,
sauf dans le parachute.
Oui.
J'ai lu que vous étiez décoré de l'ordre de l'Empire britannique.
Oui.
C'est grâce à Paddington ? Non, je plaisantais. C'était antérieure, j'imagine.
Non, c'était en 2010.
Oui,
par la reine.
Et vous l'avez rencontré à cette occasion ?
Oui.
Il paraît que dans les rencontres officielles, lorsqu'il y avait donc un protocole et qu'elle était amenée à rencontrer les invités ou les dignitaires qui lui étaient présentés, elle avait un petit rituel, c'est-à-dire qu'elle serrait les mains de tout le monde, tour à tour, mais elle ne parlait, elle n'adressait la parole aux gens que toutes les 20 personnes, environ.
Et alors ?
Et c'est-à-dire que c'était très réglé, et certains s'arrangeaient pour descendre, monter dans la queue.
Alors vous étiez le 20e ?
On devait choisir la date, je m'en souviens, c'était le 12 janvier 2010, et tu choisissais ta date, et tu ne savais pas si ça allait être Charles ou Elisabeth. Et alors, moi, j'ai eu de la chance que je connais le maître d'hôtel à l'ambassade britannique qui m'a dit « Simon, il faut que tu ailles à telle ou telle date parce que c'est la reine et c'est pas cher. » Donc, j'ai choisi le 12 janvier parce que je savais que c'était la reine. Et on était dans un petit groupe, on était une quinzaine pour décorer. Et nos familles étaient dans l'assistance. Et il y a la equerry, qui est une sorte de chevalier, je suppose, qui te donne un cours juste avant de comment parler à la reine. Donc tu dois être là, et elle, quand elle te parle, non, elle te met la main comme ça, donc tu peux lui serrer la main, elle te parle, tu commences avec Your Majesty. Et après, tu dois dire Ma'am. Et puis quand elle vous retend, et vous devez parler que si elle vous parle, et quand elle retend la main, tu sais que c'est fini.
Il faut prendre congé.
Reculer, voilà, tu tombes. Et elle était extra parce qu'elle avait un mot pour chacun. C'était fabuleux et très, très émouvant.
C'est bien d'avoir... On est content, évidemment, de commenter ces images. Regardez, c'est là encore.
Mais c'est magnifique.
On est au pas, hein, donc ça y est, on est dans le...
Avec
dans
les chevaux derrière la cavalerie et
mais
autres.
C'est bien aussi d'avoir des expériences particulières de l'humain et d'essayer de comprendre aussi comment ça se passait à la cour, parce qu'il y a une forme d'hermétisme quand même autour de toutes ces pratiques. Oui, c'est bien d'avoir des témoignages.
Les pistolets, enfin je ne sais pas si ils ont des mitraillettes ou quoi, ils sont à l'envers, hein, cross en l'air, comme on dit. Et puis le canon vers l'arrière.
Ce matin, on n'oublie pas évidemment qu'il y avait cette cérémonie, on parlait de dignitaires étrangers, ils étaient 2000 hein, dans cette abbaye de Westminster. Aux abords, il y avait Florian Tardif, hein, notre monument, nous, à CNews, hein, qui a assisté à tout cela. Bonjour Florian, c'était une très belle cérémonie.
Bonjour.
Non mais c'est vrai, hein, l'histoire de l'abbaye de Westminster, il ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup de Windsor depuis tout à l'heure. C'est un millénaire quand même, Westminster, a commencé par Guillaume le Conquérant lui-même.
Oui, imaginez-vous, c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de Westminster, c'est-à-dire c'est le lieu de pèlerinage qui se situait à l'ouest de la capitale, et c'est un choix de la reine, tout simplement parce que, et on en a assez peu parlé finalement ces derniers jours, cela faisait quasiment 300 ans, imaginez-vous bien Nelly, que des funérailles comme celle-ci n'avaient pas été célébrées en la cathédrale de Westminster ces dernières décennies. C'était à chaque fois des funérailles qui étaient organisées dans le château de Windsor. Il faut remonter, imaginez-vous bien, à 1760 pour revenir à des funérailles. C'était les funérailles de George II pour que de telles obsèques aient lieu en la cathédrale de Westminster. Alors pourquoi ce choix de la part d'Elisabeth II, tout simplement parce qu'elle a estimé que cela permettrait à la population de pouvoir se réunir et permettre à un peu plus de Britanniques de pouvoir communier ensemble ici en plein cœur de la capitale. C'est moins facile d'atteindre Windsor et d'organiser de très grands événements, même si nous nous sommes rendus proches de Windsor ces derniers jours et on a vu qu'il y avait une organisation particulière qui avait été mise en place pour justement pouvoir accueillir le plus de monde possible, tout d'abord le long de la Walk Line qui fait quasiment 5 km et qui permet d'arriver jusqu'au château de Windsor. Et de l'autre côté, imaginez-vous bien, du château de Windsor, car on attend des milliers et des milliers et des milliers de Britanniques. Si il n'y a pas assez de place pour se masser le long de la Walk Line, il y a eu un autre lieu qui a été mis en place par les autorités sur place pour permettre à la population de suivre la messe qui sera célébrée dans quelques minutes maintenant en la chapelle Saint-Georges. Des écrans géants ont été installés pour permettre au plus grand nombre, là encore c'était une décision de la part d'Elisabeth II, de pouvoir communier ensemble lors de ses obsèques, et elle souhaitait que ces funérailles, bien évidemment qui sont un moment triste pour la nation, soient également un moment de communion, de partage, de réflexion. On parle même ici lors de ces minutes de silence, de minute of reflection, c'est-à-dire des minutes de communion, certes, mais où on réfléchit sur à la fois le règne d'Elisabeth II, ce règne de 70 ans, et sur le règne de Charles III, celui à venir, et qui débute à peine aujourd'hui.
Merci beaucoup, Florian. Puisqu'on parle de Westminster, ce sont aussi beaucoup de mariages, Marc Menant. Il y a eu des moments de joie aussi dans cette abbaye.
Bien évidemment, mais... Au départ, c'est un monastère bénédictin. Là, il faut remonter à
Édouard le Confesseur. Je savais que je pouvais compter sur vous.
Mais oui. Et il fait construire une première chapelle, premier lieu. Et puis, il y a cette invasion Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant ayant estimé que Édouard le Confesseur l'avait désigné comme héritier. Et vous savez qu'Harold, lui, a entendu une autre version, d'où l'affrontement, la grande bataille que l'on peut suivre encore aujourd'hui à Bayeux sur la grande tapisserie. Guillaume le Conquérant prend le pouvoir et il se fait sacrer à Westminster en 1066. Et l'ensemble, donc, après des manifestations, pour rendre hommage. N'oubliez pas qu'aujourd'hui encore, parmi les titres du roi d'Angleterre, Charles III, il y a duc de Normandie.
C'est vrai.
Duc de Normandie.
C'est
ah ben oui, non mais voilà.
Enfin, c'est pas la reine pour les Anglo-Normandes.
C'est la duchesse
c'est la de Normandie.
Normandie.
Voilà.
Et non, elle était duchesse et lui il est duc.
Voilà.
Pardon. Oui, vous avez raison. Pardon.
Mais Westminster, effectivement, comme vous disiez, c'était le monastère de l'Ouest, c'est-à-dire à l'ouest de la City de Londres. Donc c'était après, c'est devenu le lieu de résidence royale également.
Bah son sacre elle-même. Hein.
Non, oui, bien sûr.
Là-bas, quand même.
Aussi, un caractère un peu personnel et à ce choix, c'est que Westminster Abbey est surtout le lieu où elle s'est mariée deux fois au final. Elle s'est mariée une fois avec le prince Philippe, donc son amour de toujours, et elle s'est mariée à sa nation pendant son sacre en 1953. Mm-hmm. Donc c'est vraiment deux événements qui sont vraiment très importants dans sa vie. Ce sont ces deux événements qui ont fait sa vie finalement.
Et puis donc c'est pour ça qu'elle a choisi,
à mon avis, l'abbaye Westminster.
Et plusieurs des enfants se sont mariés là-bas ensuite.
Mais c'est le plus emblématique de l'Angleterre parce que c'est à la fois c'est à la fois Saint-Denis, c'est-à-dire là où sont enterrés les anciens rois, et puis c'est aussi le Panthéon.
Il y a Newton, il y a Darwin, il y a Stephen Hawking. Voilà. L'homme qui a découvert les trous noirs.
Certains prétendent même qu'il y aurait Napoléon, que les Anglais nous auraient.
Rudyard Kipling est à Westminster.
Regardez donc cette fameuse. C'est comme une esplanade en fait. Hein, ça ressemble un petit peu à.
C'est incroyable.
Enfin, dans l'esprit, c'est un petit peu comme The Mall à Londres. Là, il y a des. On peut pas les compter quoi. Des dizaines de milliers de personnes.
Sur 5 kilomètres,
impressionnant.
Alors qu'on s'approche.
Il y a l'école de Eton qui est juste à côté, qui est l'école
fréquentée par les enfants,
les princes, et tous les enfants de Eton cet après-midi sont dans leur tenue scolaire avec la queue de pie pour saluer la reine.
Ouais. Et puis aussi soutenir leurs camarades. D'une certaine manière, par extension, le prince William, le nouveau prince de Galles.
La foule est immense.
C'est incroyable.
Vous voyez, il y a encore du chemin pour parvenir à ce château qu'on devine tout au fond.
On dit qu'elle fait sa dernière entrée dans ce château qu'elle a tant aimé. Et je trouve ça vraiment très émouvant de voir cette image qui nous.
Alors, si on se projette un petit peu justement sur la suite des choses, la famille qu'on a pu apercevoir tout à l'heure va arriver à pied pour suivre encore la procession, vraiment sur les tout derniers mètres là, pour le coup, ce qu'on appelle, c'est dans la cour du château en fait, Quadrangle, je crois. Et puis après, il y aura encore une autre cérémonie plus privée. Et puis alors, pour le coup, l'inhumation en soi, là, ce sera. Tout à fait privé.
Oui, ah, oui. Là il y a une privée de 800 personnes quand même. Il n'y a rien de privé là-dedans.
Non, mais les derniers.
Non, la dernière, la mise.
Les derniers, ils sont juste le noyau familial.
Voilà.
La famille royale. Alors,
800 personnes, certes, mais quand même assez très sur le volet, parce que des gens qui ont travaillé pour la famille royale, pour la maison royale.
Ils sont sur le volet.
Des représentants du Commonwealth.
Il y a quand même toute la famille qui représente déjà peut-être au moins une centaine de.
Oui, si on la prend au sens large.
En toutes les branches, oui.
Parce que beaucoup ont été exclus par la force des choses, des
cérémonies précédentes. Non, mais il y avait beaucoup de monde, tout à l'heure. Non,
mais il n'y avait pas les 100 ou 150.
Tout le monde était là.
Il nous faut faire appel à notre imagination. On a évoqué tout à l'heure cet amour qu'il a tenu durant toutes les traversées, les tragédies de son existence. Amour avec Philippe. Et ce soir, devant les intimes, le cercle le plus resserré, ces deux cœurs vont refusionner en étant placés dans le même tombeau. Vous vous rendez compte de cette symbolique? Comment, ayant eu la force de cette union pour affronter tout ce qu'ils ont traversé, cette femme qui a perdu cet homme qui lui était indispensable,
il y a un an, qui depuis a entamé un long déclin, qui a tenu jusqu'au bout pour avoir le dernier souffle afin d'adouber le Premier ministre féminin, il y a donc...
48 heures avant sa mort, oui.
48 heures avant sa mort. Et là, elle retrouve cet homme. Cet homme à qui elle avait promis de tenir dans la dignité et dans la joie, car il n'était pas question de retomber dans des obsèques infinies, dans une période de deuil comme celle imposée par la reine Victoria. Oui, oui, oui. Et moi, je trouve ça d'une force inouïe. Et il nous faut imaginer ce moment d'intimité qui sera réservé à cette famille.
Et au-delà de Philippe, on parlait d'amour, il y a aussi le fameux « nous quatre » que Georges VI aimait dire de son vivant et qui va se rassembler pour l'éternité avec donc Georges VI, Elisabeth Bozaïon et la princesse Margaret, donc en plus du prince Philippe. Mais
voilà, nous sommes maintenant.
Nous quatre, voilà, voyez, c'est...
Alors, cette image, donc, on s'approche bon an, mal an, et on a l'impression que la foule se resserre presque autour de ce cortège. Il y a une espèce de densité qu'on n'apercevait pas tout à l'heure, même en étant au pas. Là, on voit bien qu'on s'approche quand même du saint des saints, avec donc cette famille qui va les rejoindre. Moi, je, par rapport à ce que vous racontiez, Simon Guillaume, est-ce qu'on peut imaginer que lorsque le noyau dur de la famille sera soudé autour d'elle pour les derniers instants, les dernières minutes, il va y avoir un petit peu plus d'émotion qui va entrer en ligne de compte. Cette famille qui doit rester toujours si digne devant les objectifs, devant les caméras. Est-ce qu'il y a des moments où on peut, parce qu'après tout, on est humain, s'épancher et se laisser aller à quelque émotion pour la perte de cette personne qui était leur mère quand même?
Oui, mais... En fait...
Oui, mais...
Je d'accord. pense que c'est pas un hasard qu'on dise... vous pouvez acheter les affiches à Londres. Keep calm and carry on. Et honnêtement, c'est vrai. Et il y aura de l'émotion, évidemment. Je suppose. C'est une famille normale. Ils ont... Voilà. Ah non, c'est pas une famille normale.
Mais on n'est pas chez...
Ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est... On a des sentiments d'enfants et de petits-enfants.
À... Voilà, Charles, ce matin, a été extrêmement ému.
Voilà,
enfin, il n'allait pas effectivement se rouler par terre en hurlant, mais il avait l'air d'une William, extrêmement ému.
Alors, on va s'interrompre à nouveau de manière à apercevoir donc, le cortège arrivé devant la procession à pied et la famille réunie autour. À tout de suite. Les funérailles du siècle, ça se poursuit bien sûr en direct sur CNews cet après-midi. Regardez cette image. Je crois qu'on n'avait encore jamais aperçu ça, corrigez-moi si je me trompe, les uns et les autres, depuis le début ces 10 jours grosso modo consacrés à honorer, à célébrer cette femme, cette souveraine disparue aujourd'hui. Mais alors là, en termes de... comment peut-on décrire le côté compact de la chose? Enfin, je veux dire, il y a des milliers de
deux
personnes.
Marées de chaque côté. C'est
incroyable. Et pourtant, on imagine que c'est quand même assez vaste.
Il y a vraiment des millions de personnes qui sont dans les rues, alors qu'à Londres, on ne pensait pas forcément, on ne le voyait pas en tout cas, alors que là, on le voit.
Mais même.
Cette proximité entre le public et le cortège lui-même, parce que quelques mètres à peine les séparent. Mm-hmm. Hein, on n'est pas dans des grandes avenues.
Et pourtant, ils sont des millions, mais on le disait tout à l'heure, mais c'est extrêmement silencieux. On entend uniquement la musique
on est dans la dignité, oui.
Et on entend quelques applaudissements de temps en temps, mais c'est extrêmement silencieux, extrêmement respectueux et c'est admirable.
Régine Delfour, vous êtes sur place, le long de ce parcours. La question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous le voyez, ça y est, le cortège arrivé? Est-ce que vous êtes devant? Est-ce qu'il va vous passer devant bientôt?
Il va bientôt passer devant. Je commence à entendre la fanfare qui arrive. Ça veut dire qu'il va pas tarder. Et comme le disait votre invité en plateau, c'est assez remarquable de constater ce silence extrêmement respectueux ici à Windsor. Tout le monde attend. Vous l'avez vu sur les images. Vous avez vu ces noirs de monde de chaque côté de cette longue walk. Et il devrait pas tarder, il reste, nous on est à peu près à 200 mètres du château. Hein. Donc il va pas tarder, il est arrivé vers 16h15, ici au domaine de Windsor. Et tout le monde attend religieusement le passage du cercueil de la reine, puisque c'est la dernière fois où on apercevra ce cercueil avant qu'elle rejoigne son ultime demeure, Nelly.
Alors, la suite des choses, effectivement, vous le disiez, c'est dans 6-7 minutes, normalement, il est prévu qu'il arrive devant J'entends. Les portes du château à proprement parler. Et puis après, il y aura la famille qui va à nouveau entamer une procession à pied derrière le cortège. Alors, je ne suis pas sûre que Régine nous entende bien pour commenter cette dernière partie. Si. Pour l'instant, on est dans les clous, on est dans les temps, n'est-ce pas?
Oui, pour l'instant, on est plus ou moins dans les temps, puisque c'est théoriquement, c'était à 16h40 que le roi Charles III et quelques membres de la famille royale vont rejoindre cette procession qui va arriver au niveau du château. C'est à partir du château. Les autres membres de la famille royale vont suivre en voiture. Ils vont donc accompagner le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-Georges où un service funéraire, vous entendez les cornemuses, le convoi se rapproche de nous. Nelly. Et donc, ils vont accompagner le cercueil pour ce service funéraire où 800 personnes seront présentes, surtout des membres du personnel de la reine, avant l'inhumation qui se déroulera à 20h30, mais dans la plus stricte intimité, avec les membres de la famille royale. Merci. Et là, le cercueil arrive, Nelly.
Merci beaucoup, Régine. Kevin et Guillaume, l'inhumation, ça ne se fera pas, on le précise quand même, dans l'abbaye. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ça va se faire en deux temps, là aussi. Il y a la fameuse cérémonie avec 800 personnes. Et puis après, on va dans une petite chapelle attenante. Est-ce qu'on a des informations sur cette chapelle?
Oui.
Et pourquoi le choix de ce lieu?
Alors, en fait, c'est une petite chapelle qui a été construite à la mort du roi George VI, donc son père, et donc qui est dans la crypte de l'abbaye, de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Et en fait, donc c'est une toute petite chapelle qui contient simplement donc le tombeau de George VI avec la Queen même, donc la mère d'Elisabeth II, et il y a aussi donc les cendres de sa sœur. Donc comme on disait, ça va permettre en fait en faisant l'inhumation dans cette chapelle, ça va permettre de rassembler tout le monde en un même lieu pour l'éternité.
On va retourner voir Régine Delfour parce que ça y est, ce que vous nous prédisiez est en train de se produire. Le cortège, on le voit à l'image ici, passe devant vous.
Oui, le cortège passe devant nous et c'est toujours extrêmement silencieux. On n'entend pas d'applaudissements pour le moment. Les gens attendent religieusement le passage du cortège. Ils sont là, ils sont en train de le regarder. On voit évidemment, il y a les chevaux, il y a les différents corps d'armée qui sont là pour accompagner dans son ultime voyage la reine Elisabeth II. Et c'est assez étonnant, Nelly, hein, d'entendre que la cornemuse et un petit peu la fanfare et rien d'autre ici.
Allez, on va laisser. J'aimerais bien. Est-ce qu'on peut monter juste le son d'ambiance, puisque justement, parfois, il est bon d'écouter le silence, ce fameux silence.
Très connu.
Parler de ce silence. Néanmoins, brisé par quelques applaudissements. Hein. Simon Guillam, on voit quand même que, voilà, on a beau être là pour le recueillement, il y a aussi un public un peu plus populaire aussi, sans doute, qui a fait le déplacement. Oui, c'est oui. Toute la Grande-Bretagne.
Mais je pense que c'est très digne. Tout est très digne. Les applaudissements sont dignes. C'était à la fin de la musique.
Et c'est vrai qu'on a attendu la fin des cornemuses.
Et puis ça applaudit. Et ça applaudit au moment où elle passe. Et donc.
Et après, ça s'arrête.
Ça s'arrête.
Comme ouais. Une sorte de dernière aide d'honneur.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et je trouve ça. Je suis très ému, en fait, en regardant cela, parce que c'est tellement digne. Et je suis fier de cette dignité.
Il n'y a pas eu un seul faux pas, y compris sur le plan diplomatique. On a fait en sorte aussi que c'est les chefs d'État ou les dirigeants du monde qui pouvaient nourrir une certaine inimitié entre eux ne se croisent pas. Enfin, je veux dire, tout ça a été un ballet savamment préparé, savamment organisé, Kevin.
Oui, je pense notamment au roi d'Espagne. Philippe VI est venu avec sa femme rendre hommage à Elisabeth II dans Westminster Hall. Mais par contre, on ne l'a pas vu aux côtés de ses parents, parce que son père est entaché de scandales en ce moment, et du coup, il a tenu à ce qu'il ne soit pas photographié avec son père. Et donc, Juan Carlos est en fait allé directement à Buckingham, là où il était attendu par le couple royal. Donc oui, tout était vraiment savamment orchestré pour qu'aucune photo déplaisante ne soit prise. Si ce n'est le couple Macron avec leur casquette et leur lunettes de soleil, mais bon, ça, voilà.
C'était avant le début des cérémonies.
Moi, ça me choque pas. Moi, je ne suis pas,
pas
du tout choqué par ça. Ah, oui. Ils étaient en balade à Londres. Oui. Ils ne sont pas allés saluer la reine comme ça. Non, donc, mais ils étaient en noir. Ils étaient très bien habillés. Ils étaient chics. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouvais que ça donnait un French touch un peu pour les Britanniques.
On a perdu le sens de la dignité, Simon.
C'est un peu le
République.
Moi, j'ai trouvé ça. J'étais un peu envieux de leur look, en fait.
Le républicain laissait tomber le smoking.
Non, mais je suis pas. Je pense.
Non, mais
et vous voulez en faire une polémique, mais pour moi, il n'y en a pas. Voilà.
Non, les médias ont bien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de photos.
Oui. Je trouve mais que les les journaux britanniques, The Times, que j'ai lu ce matin, a trouvé une très belle photo.
C'était casual, chic, et c'était surtout pas officiel.
Casual, et en précisant, qu'ils allaient se changer pour aller voir la reine.
Donc,
restons dans l'harmonie des cérémonies.
Voilà.
Et ce qui est fabuleux, quand même, c'est que pendant 10 jours, les événements se sont enchaînés dans un décorum qui dépasse Cécile B2000, où, pour réaliser un film, en général, vous avez 10 000 répétitions. Là, chaque chose se déroule véritablement avec une précision, avec une élégance, avec une majesté et dans la dignité la plus totale. On se demande comment c'est possible.
Tout à fait.
Non, parce que là, ça dépasse l'imagination.
Pendant 10 jours, oui, c'est ça.
10 jours.
Et puis, voilà, on ne savait pas qu'elle allait décéder à Balmoral.
Non, mais d'accord, mais répétez, vos chefs d'État, comme vous les mettiez en scène tout à l'heure, ils n'étaient pas là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, quand vous avez le corbeil-billard qui arrive, les chevaux, la foule, l'ensemble, et qu'à la fin, on est plus précis. Alors vous allez me dire, on n'a pas de mal qu'un train partant de la gare du Nord, c'est quand même un inouï.
Bon, et ça, surtout, et en même temps, là, on a 3 minutes de retard sur la rampe.
Oui, d'accord, mais surtout, et cette majesté, c'est incroyable. C'est...
On l'a fait pire.
Il manque pas un bouton.
Mais, moi, je suis d'accord avec Marc. Je trouve ça extraordinaire.
Ils sont très, très forts.
Et, vraiment,
en tout cas, on a entendu la cornemuse tout à l'heure. Elle est morte à Balmoral. Donc c'est aussi l'Écosse qui la suit jusqu'au bout, je trouve. Et je trouve ça très symbolique. Et je trouve ça très touchant.
Il y a un fil conducteur de bout en bout.
Un fil conducteur. Elle aimait beaucoup l'Écosse. Elle se réveillait tous les matins avec un son de cornemuse, par exemple. Voilà. Il ne faut pas oublier que sa mère était écossaise. Elle a vécu ses jeunes années dans le château de Glamis, le château où est née sa mère.
Voilà. Et avec des nurses écossaises.
Oui, voilà, ouais. C'est ça, des nurses écossaises. Donc non, c'est vraiment... L'Écosse est vraiment très présente était vraiment très présente dans la vie d'Elisabeth II, et jusqu'au bout, on voit que l'Écosse
reste... Allez, un dernier mot, il nous reste une minute avant de rendre
l'antenne. Oui, non, simplement, la cornemuse. Moi, j'ai trouvé cette image fabuleuse tout à l'heure. à la fin de la cérémonie religieuse, on avait le joueur de cornemuse qui était seul, juste au-dessus de l'abbaye, qui dominait tout le monde, et on était tourné dans l'élévation, on le regardait comme un appel au ciel.
On va se quitter sur cette image. Merci à tous les trois. Merci Simon Guilhall d'être venu pour commenter ça.
Merci Nelly de nous avoir invités.
Vous vous souviendrez que ce jour-là, vous étiez sur CNews. Vous savez, on se souvient toujours des moments marquants de l'histoire. Vous étiez où tel ou tel jour, parfois pour des épisodes aussi beaucoup plus dramatiques encore. Et là, bah, vous saurez que vous étiez chez nous.
Et c'était vraiment un honneur.
Merci voilà. À tous. Dans un instant, Punchline, bien sûr, la suite avec Laurence Ferrari pour la fin de ces funérailles du siècle. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.